much about the French I took.
Et c'est l'heure des arpètes. Chaque mois, on décrypte un nouvel enjeu de société au travers d'un essai, avec l'aide de nos invités. De la vulgarisation, des échanges d'idées, des découvertes et des rencontres, les arpètes, c'est votre brunch curieux du samedi midi pour nourrir nos réflexions, construire une culture commune et comprendre un peu mieux la société dans laquelle nous vivons. Et c'est tout de suite sur Prune.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission des arpètes.
Je suis Enora et comme chaque premier samedi du mois, je co-anime l'émission Les Arpètes avec mon acolyte Anne-Lise.
C'est moi. Nous venons aujourd'hui vous parler de journalisme ou peut-être plus de déjournalisme. Ça ne vous dit rien, c'est normal, c'est un terme que je viens d'inventer afin de transitionner vers le vrai sujet du jour, la désaffection du métier de journaliste.
Mais pas par n'importe qui, on parle de 40% des nouveaux et nouvelles détenteurs de la carte de presse qui désertent la profession au bout de 7 ans.
C'est de ce constat que part notre émission du jour, en effet, avec toutes les questions que ça engendre. Est-ce une question d'époque? Est-ce une question de contexte, post-Charlie Hebdo par exemple? Est-ce une question de génération, de lassitude, de recul sur le monde du travail?
Pour aborder ce sujet, nous ne sommes pas partis bien loin pour chercher nos invités. Nous recevons nos camarades de Prune, Romane et François-Xavier de Retour aux Sources, une émission de Critique Média. Bonjour à tous les deux et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour.
Salut.
Ce n'est pas votre seul lien avec le milieu du journalisme, puisque vous êtes tous les deux également salariés de Fragile, une association d'éducation aux médias et un magazine web collaboratif. Romane, tu es animatrice d'éducation aux médias et FX, tu es rédacteur de la partie magazine.
Rédacteur en chef, ouais, et aussi animateur d'atelier d'éducation aux médias, comme Roman.
C'est vous qui nous avez proposé le livre enquête sur lequel nous allons nous appuyer pour comprendre notre sujet aujourd'hui. Il s'agit de Jeunes journalistes, l'heure du doute, de Jean-Marie Charron, sociologue, ingénieur et chercheur.
Ses recherches s'orientent sans surprise vers les médias, le journalisme et les informations. L'enquête, sortie en septembre 2023, a été réalisée grâce à 103 témoignages de journalistes ayant 30 ans au maximum et sur la période de 2021-2023.
Comme d'habitude, nous avons sauvagement déchiré ce livre en 4 parties suivant le concept de notre émission, l'arpentage. Une méthode de lecture et d'apprentissage ayant pour principe la division d'un ouvrage puis la restitution de celui-ci avec l'ensemble des lectrices.
Et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire tout de suite. C'est parti pour la restitution de la lecture de Jeunes journalistes, l'heure du doute, de Jean-Marie Charron, avec nos invités Romane et FX.
C'est moi qui commence, parce que j'avais la première partie du livre. Je pense que ma restitution va être rapide, parce que je ne vais pas vous cacher que je n'ai pas trop apprécié ma lecture. Je trouve que ça manquait beaucoup de rigueur sociologique et que c'était assez superficiel et que ça posait plus de questions que ça n'apportait de réponses. Donc, nul sur 20 pour Jean-Marie de ma part. Mais bon, après tout, j'ai lu que les 40 premières pages, donc je lui laisse le bénéfice du doute. J'attends vos restitutions avec impatience. Dans l'introduction, on apprend que ce livre est une contribution à la compréhension de l'évolution d'une profession et aux questions qui se posent aujourd'hui dans le système de production de l'information. Jean-Marie Charron nous pose un peu le contexte de son enquête, à savoir celui d'une mutation profonde des médias. On a les anciens modèles économiques, comme celui de la presse écrite qui s'effondre, l'arrivée du numérique et des réseaux sociaux. Ces derniers se sont imposés comme des intermédiaires entre les médias et leur public, faisant évoluer la façon dont les gens s'informent, et donc aussi les modèles économiques. Les médias se doivent aujourd'hui de proposer de l'info sur tous ces nouveaux canaux, dans des formats adaptés à chaque plateforme, mais malgré ce surplus de travail, les moyens dont disposent les rédactions s'effondrent et donc leurs effectifs avec. Une petite phrase à la fin de cette intro complète le tableau en mentionnant le climat de méfiance envers le journalisme qui règne aujourd'hui dans la population. Ensuite, Jean-Marie Charron nous présente un peu son échantillon de personnes interrogées pour son enquête. Comme tu le disais en intro, Anne-Lise, 103 journalistes entre 22 et 30 ans ont été interrogés. Leur parcours professionnel s'étale sur 5 ans en moyenne. On apprend que sur cet échantillon, nombreux et nombreux sont celles qui pensaient déjà au journalisme comme métier en étant jeunes. Leurs origines sociales sont diverses, avec quand même une représentation plus marquée des couches sociales moyennes des couches sociales moyennes intellectuelles, enfants de profs, de professionnels du soin, de cadres moyens. Ensuite, l'auteur évoque brièvement un paradoxe des pratiques d'information, à savoir le fait que cette génération de journalistes ne consomme pas l'information qu'elles produisent. C'est-à-dire qu'elles travaillent dans des rédactions, mais ne lisent pas forcément la presse écrite, n'écoutent pas trop la radio, ne regardent que peu la télé. Et elles s'informent principalement via les réseaux sociaux. Voilà pour le contexte de l'enquête socio. Suite à cette intro assez succincte, on a une partie qui s'appelle « Des parcours de formation pluriel » qui porte bien son nom puisqu'il va grosso modo juste nous dire qu'il y a plusieurs façons de devenir journaliste. Ça commence par une phrase qui dit, je cite, « Le principe d'une formation professionnelle spécifique au journalisme ne fait plus débat ». Mais c'est une phrase qui sort un peu de nulle part parce qu'on ne sait pas trop chez qui ça ne fait plus débat parce que par la suite, on entend que la plupart des journalistes interrogés émettent des critiques assez marquées sur leur étude de journalisme. Les formations au journalisme ne seraient pas assez actuelles en matière de numérique ou de vidéo notamment, seraient trop polarisées sur une actu dite chaude et surtout, les étudiants et étudiantes en journalisme seraient surtout formés au travail en rédaction alors qu'un tiers des journalistes sont en fait pigistes. Pigistes, ça veut dire qu'elles ne sont pas salariées mais sont payées à l'article, au reportage ou à la photo. Comme tout métier exercé en indépendant, ça implique de savoir vendre son travail, savoir fixer ses tarifs, connaître ses droits et apparemment ces aspects-là ne sont pas pris en charge par les formations au journalisme, ou trop peu, et donc les prépare mal les jeunes journalistes à la réalité du terrain. J'ai l'impression de dire que des trucs un peu génériques et flous, mais je vous assure que c'est pas de ma faute, c'est pas moi qui synthétise brièvement le propos grossièrement, c'est vraiment l'enquête qui est écrite comme ça, et ça m'a surpris aussi. Il n'y a pas plus de détails sur quelle formation est actuelle ou ne l'est pas, quelle école prépare correctement au statut de pigiste, si c'est du privé, du public. C'est pour ça que je disais que je n'ai pas trop apprécié ma lecture, c'est que j'ai l'impression que Jean-Marie Charon dissémine à la volée des citations de son enquête sans vraiment les contextualiser, les analyser. Du coup, j'espère que c'était juste le cas de l'intro et que ça va être un peu plus étoffé dans la suite du livre. Du coup, je vous laisse la parole à toi et Fix pour la partie suivante.
Bah merci Enora, moi je te rejoins sur cette partie d'accumulation de témoignages. Je suis pas habitué à lire ce genre de livre, alors j'ai trouvé ça très plaisant parce que j'avais 30 ou 40 pages à lire hier et ça se lit très vite. Moi je commence avec du coup une partie qui s'appelle Motivé. Donc le livre est divisé en petits chapitres et en sous-chapitres assez faciles à résumer. Motivé, en fait, ça parle des motivations personnelles des journalistes. Qu'est-ce qui les a motivés à pratiquer le journalisme dans leur vie? Donc on passe de l'idée du métier passion, en fait, de la passion de transmettre de l'information, la volonté d'être utile à la société, l'envie d'avoir du contact avec les gens. C'est un métier qui permet de garder du contact avec les gens. Et là, je peux normalement, je peux pas les contredire. Il y a aussi ce rôle de transmetteur, qu'on va retrouver dans les rôles d'éducation. En fait, on est là pour transmettre une information. C'est quelque chose qui motive beaucoup les personnes interrogées. Et dans cette motivation, il y a quand même un attrait pour un côté humble de la profession. C'est-à-dire que les personnes interrogées ont l'air de considérer leur mission de manière très humble. En gros, ils savent que ce sont des petites mains de l'information et qu'il n'y a pas... je ne sais plus qui disait ça, on ne fait pas décoller des fusées, c'est pas dans le livre, mais c'est dans cette idée-là, en fait. On participe en tant que journaliste à la création d'informations et de savoir comment. Les modèles aussi sont questionnés par Jean-Marie Charon sur les personnes interrogées et l'auteur semble surpris des modèles de la jeune génération qui vont être plus des journalistes d'investigation du type Florence Aubenas, Élise Lucet ou alors sur du temps long comme Raymond Depardon qui revient. Il est assez surpris de ne pas trouver de modèle du côté des ténors de l'actualité politique ou économique, ce qu'on appellerait les éditocrates. Donc voilà. La suite du livre va sur justement la vision de l'actualité par les journalistes, en fait, et leur envie autour de l'actualité. Il y a une volonté de production qui est vraiment tournée vers le temps long plutôt que sur l'actu chaude. Donc ça rejoint ce que tu disais sur la première partie du livre où l'actu chaude n'est pas considérée comme très... Comment dire, elle n'est pas valorisée en fait. Il y a cette idée que pour être intéressant, il faut que ça soit long. Et autant sur l'enquête que sur la forme finale. Donc on va privilégier les films, les documentaires. Ce qui peut rentrer en contradiction avec leur manière de consommer de l'information, à savoir les réseaux sociaux. Il y a une appétence grandissante ces dernières années pour le format podcast, qui doit être lié en fait à l'explosion aussi des formats podcast qui existaient un peu moins au siècle précédent. Il y a toujours cette idée d'aller sur le terrain pour les journalistes voilà, pareil, hein, ça ressemble à des banalités, mais je pense que c'est intéressant en tout cas de le revoir écrit et de le voir questionné pour des jeunes journalistes. Il y a une phrase moi qui m'a marqué par rapport à l'actualité chaude sur cette partie, c'est que l'actualité chaude est considérée comme bloquante. Il y a une phrase marquante, c'est « on a l'impression que l'actualité nous enferme dans quelque chose de rébarbatif, on se sent dépassé par quelque chose qui nous dépasse ». On passe sur la poésie du propos, mais c'est étonnant pour des journalistes d'avoir cette idée que l'actualité les dépasse puisque ces personnes sont là pour justement transmettre de l'information. Et donc, il y a un vrai décalage qui se crée entre les volontés et le réel des missions qui leur sont accordées. Le livre poursuit sur la précarité, la vision des journalistes de leur niveau de vie et de ce que leur métier leur permet d'acquérir en termes de ressources. Ce n'est pas une surprise pour les jeunes journalistes qui s'y attendaient. Parce qu'en fait, il y a cette idée que le journaliste, c'est un métier précaire, mais il y a quand même une sensation de vide qui se crée, ou de peur du vide qui se crée à la fin de leurs études. C'est-à-dire qu'à la fin des études, il y a cette idée de « Ah bah tiens, comment on va faire une fois qu'on sera professionnel ?» Et là, ça rejoint cette idée de ne pas être préparé à rentrer sur le marché du travail. Dans ce chapitre sur la précarité, on va parler de violence du marché de pigistes liée à la précarité, où deux tiers des journalistes de moins de 30 ans sont pigistes. Il y a une obligation pour beaucoup de compléter leur taf de journaliste par un job alimentaire, qu'il soit donc du pionica ou des jobs en boutique. L'insécurité du taf, l'illisibilité du fonctionnement des rédactions en étant à l'extérieur de la rédaction. Quand on est pigiste, on n'est pas dans les bureaux, donc on ne sait pas comment ça fonctionne et donc on a ce sentiment d'être des fois choisi, des fois pas choisi sur des critères qui ne sont pas du tout lisibles. On y parle de solitude, justement, des pigistes, de l'obligation aussi de rester disponible tout le temps. On n'a pas le droit d'éteindre son téléphone parce qu'en fait, on est tellement précaire qu'il faut accepter tous les boulots, donc on n'éteint jamais son téléphone, malgré le droit à la déconnexion. Et puis, il y a cette idée du CDI qui est considéré comme un Graal, de décrocher un CDI, très peu pour les jeunes journalistes. En fait, plus on vieillit, plus on peut avoir accès à ce CDI, sauf sur des domaines bien spécifiques. Par exemple, quand on est spécialiste de TikTok, des rédactions vont nous embaucher en CDI pour pouvoir produire du contenu bien spécifique ou si on est data journaliste, des choses comme ça. Et moi, j'ai terminé ma partie sur un chapitre qui parle de la verticalité hiérarchique et des relations avec les supérieurs. Donc il y a vraiment cette idée qu'il y a un désenchantement total quant au taf de reporter en fait. Il y a une phrase marquante d'un manager à propos d'une commande du sujet où le manager dit « il faudrait que le sujet parle de ça et dise ça, ça et ça ». Et en gros, ça désacralise totalement le métier du journaliste qui là serait pas du tout là pour chercher une information, mais plutôt pour trouver celle qu'on lui demande de trouver. Donc ça crée une certaine violence sur les demandes des managers vis-à-vis des journalistes. Une violence dans les relations avec la hiérarchie, beaucoup d'engueulades, d'insultes. Quelqu'un qui dit « ces 6 mois ont été une véritable torture » avec en prime du harcèlement moral du côté du management. D'ailleurs, on parle de management. Là, il n'y a même plus l'idée de rédaction, enfin de rédacteur en chef ou de collègue journaliste. On est vraiment sur du vocabulaire de l'entreprise et de la start-up. Il y a une autre citation, si vous n'êtes pas content, vous prenez la porte. Donc c'est dans cet univers que les jeunes journalistes en tout cas évoluent. Dans un univers avec des managers incompétents, la plupart seraient donc d'anciens bons journalistes promus pour cette raison, mais incompétents dans l'encadrement des équipes, comme souvent dans les startups, voilà, ou dans les entreprises, on va dire, plus que les startups. Et je passe la parole à je ne sais pas qui, à.
Je crois que c'est moi.
C'est page 60.
Oui, tout à fait, c'était à toi, Romain. 71.
Et ben, en fait, c'est curieux. Donc, je crois que j'ai eu la fin de ta partie FX qui termine par quand même une petite aspiration, une utopie qui reste un petit peu là. C'est l'aspiration à la bienveillance que j'ai ressentie, donc, bah, décrite dans cet ouvrage qui, je trouve, pour le coup, ça m'a un peu étonnée, ta vision, Enora, mais c'est intéressant. Étant moi-même, je pense, au milieu du livre, là, de la partie que j'ai, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a beaucoup de témoignages. Effectivement, du coup, peu de recul et peu de chiffres extérieurs, etc. Mais bon, pour le coup, au moins, il y a beaucoup de citations, donc on sent que voilà, il a bien fait son taf d'interview. Et donc, du coup, l'aspiration à la bienveillance, ça reste un espèce d'objectif où vraiment ils sentent qu'ils n'en ont pas, mais que ça reste un espoir de tomber sur une rédaction, une rédac chef qui soit bienveillant et qui leur donne confiance. En fait, je pense que c'est vraiment le truc, mais comme quand on commence n'importe quel travail, et là on le ressent aussi, c'est on arrive dans un boulot, on arrive dans une rédaction, et en fait tout ce qu'on a envie, c'est qu'on nous fasse un minimum confiance pour qu'ensuite, justement, on puisse développer ses capacités, développer ce qu'on a appris à l'école ou à la fac, etc. Et tout de suite, on sent que bah là, encore une fois, le mot désenchantement, il est bien choisi parce que parce qu'on sent que c'est pas du tout le cas et que rares sont les personnes interviewées qui ont senti justement cette bienveillance d'un chef, d'un cadre ou juste d'un journaliste qui était aussi là avec eux mais qui avait peut-être plus d'expérience. Donc ça, c'est une aspiration, mais c'est pas du tout concret. Et le reste de la partie que j'ai eu à lire, clairement, c'est... Comment dire alors ça s'appelle « Vivre en rédaction, puis discriminer et .es ». Et clairement, c'est tout ce qui va pas du tout dans la réalité du métier et notamment la vie en rédaction. Dans cette partie, personnellement, je ne pense pas avoir appris grand-chose, mais ça conforte en fait les autres échos que j'ai eus personnellement. Enfin, voilà, ça conforte un peu ce que j'ai déjà entendu. Il y a plusieurs sous-thématiques, donc effectivement, je trouve que le livre est plutôt bien chapitré et bien séquencé. Il y a par exemple, donc c'est des trucs très précis, genre par exemple les horaires, où là on apprend que concrètement, bah, quand on est journaliste, ça paraît très cliché, mais bon, là c'est vrai, on compte pas ses heures, on doit être dispo, notamment en tant que jeune journaliste, dispo avec des tranches horaires de 7h à 22h, selon si on travaille dans une édition du matin, du soir, si on est sur le web, bah, là on peut être appelé n'importe quand. Il y a quand même l'idée que là, j'ai l'impression, en tout cas, les personnes qui témoignent sont pas forcément des pigistes, c'est plutôt des personnes qui travaillent justement en rédaction. Mais même en étant en rédaction, en CDD ou en CDI, je crois pas que ça soit précisé, mais qu'en fait, on reste, même si c'est pas dans nos horaires, on reste parce que bah, on a envie de bien se faire voir, parce qu'on n'a pas non plus forcément le choix. Et là, il y a par exemple une personne qui dit « Il est 22h, je suis là depuis 10h ». Donc, en fait, 12 heures de travail, clairement, c'est beaucoup.
Et, voire pas légal.
Mais il y a beaucoup de témoignages dans ce sens. Il y a une autre thématique dans le vivre en rédaction. Il y a les journées travaillées, par exemple, de dire « Bon, bah, normalement, on ne travaille pas le week-end » ou alors voilà, l'idée d'avoir quand même un petit temps de repos, ce qui n'est pas forcément le cas. Il faut être disponible en permanence, même si on a un contrat. Il y a l'idée de bah, tiens, il se passe ça, t'y vas, ou alors d'avoir son téléphone, je sais plus, mais je crois que c'est toi, FX, qui le disait, d'avoir son téléphone toujours allumé, parce qu'on ne sait jamais, et que l'idée de louper une info, ou surtout de louper un appel de son chef, ça reste très présent. Avec l'idée aussi de. J'ai trouvé assez intéressant, c'est citer le mot bulle sociale. Le côté entre-soi, notamment, je pense, lié à la rédac, du coup, qui va un peu dans l'inverse de ce que tu disais chez les pigistes, c'est qu'à l'inverse, il y a beaucoup de jeunes où on pourrait se dire, bah tiens, je sais pas, on forme une équipe, ça peut être sympa. Justement, en mode start-up, ça, c'est un truc qui se retrouve, mais qui est pas, en tout cas dans le livre, qui est pas du tout vécu comme une bonne chose. C'est le fait de, vu qu'on fait des horaires, bah après on sort un petit peu ensemble, on va boire des coups, mais du coup, t'es avec ton chef ou t'es avec tes collègues, mais t'as qu'une envie, c'est de rentrer chez toi. Et tu fréquentes toujours les mêmes genres de personnes. Enfin voilà, c'est des bulles un peu, bah, comme ils disent, bulles sociales. Et ça, c'est un peu décrié également. Y a une dernière chose dans cette partie, c'est le côté numérique. Ce à quoi je m'attendais, enfin, c'est pas que je m'attendais pas, mais j'avais peut-être pas forcément réfléchi à cette question. C'est qu'en fait, souvent, quand les personnes arrivent, en tout cas dans le livre, dans une rédaction, elles sont affectées au web. Et encore une fois, je pense que c'est un désenchantement parce qu'ils ne s'y attendent pas forcément justement avec cette idée de peut-être survendu en école, je ne sais pas, mais d'aller sur le terrain, de rencontrer des personnes, de juste des fois appeler. Mais même si en fait, ce qu'ils disent, c'est que la majorité du temps, c'est soit des mails, soit des appels. En fait, il y a une déception, vraiment, d'être déjà que sur le web, donc des formats très rapides, très speed, justement, le fait de courir après le temps, je pense que je l'ai ressenti aussi en lisant cette partie. Et voilà, donc par exemple, il y a une personne qui témoigne, je ne vais pas dire de bêtises, mais d'écrire 15 articles par jour. Enfin, vraiment, c'est énorme. En fait, c'est même plus... c'est vraiment le... Limite, je crois que le mot usine est ressorti. Enfin, voilà. Il y a le mot bâtonnage aussi qui est ressorti. Je ne sais pas si on l'expliquera tout à l'heure. Bâtonnage, donc, qui est une pratique journalistique qui consiste à tout simplement copier-coller en changeant quelques mots un texte qui est sorti souvent de l'AFP ou d'une dépêche AFP qui est repris en fait, par manque de temps, par manque de moyens, de tout simplement reprendre un article qui existe déjà et le republier sur son propre média. Et enfin, la deuxième partie, qui s'appelle Discriminer, que j'ai trouvée, après c'est aussi un point de vue personnel, mais la plus intéressante, même si encore une fois, ça ne m'étonne pas du tout malheureusement, il y a l'idée de faire perdurer une classe sociale qui est déjà très présente, c'est-à-dire des classes plutôt moyennes, voire classes supérieures, avec, encore une fois, une difficulté pour les classes populaires à accéder à ce type d'emploi, et quand c'est le cas, du coup, de vraiment se sentir à l'écart, et voire même aussi de se rendre compte que c'est pas parce qu'on a fait un bac plus 5, un IEP, qu'on sort de Sciences Po ou d'une super école, qu'on est bien payé, à l'inverse, qu'on est payé au SMIC. Donc vraiment, il y a l'idée de discrimination un peu sociale, discrimination aussi sexiste et du harcèlement qui est aussi évoqué. Donc je trouve ça super chouette. Évidemment, je pense que ce n'est pas assez détaillé, mais c'est bien d'en faire part, qu'il y a vraiment un climat sexiste dans les rédactions, avec des jeunes femmes qui témoignent, enfin des femmes d'ailleurs, qui témoignent que des propos homophobes, sexistes, sont assez monnaie courante dans leurs témoignages. Et avec toujours l'image classique de « Ah bah tiens, c'est ta stagiaire », etc. Enfin, vraiment avec un langage qui ressort parce que femme et parce que jeune femme. Donc voilà, et puis ça se termine sur le côté aussi, bah, évidemment, le racisme ambiant. Voilà, donc une bulle sociale du coup qui s'applique également dans les rédactions et qui fait que c'est plutôt une suite de discrimination qui a lieu dans les rédactions, en tout cas celles qu'ils ont interviewées. Et je te donne la parole à Alice.
Ouais, c'est ça. Merci Roman, une partie bien joyeuse à ce que je vois.
Ouais.
Bah écoutez, ma partie, du coup j'ai la fin, hein, et en bonne fin, ma partie elle fait un peu conclusion de tout ce qui s'est dit. Effectivement, j'ai eu vent du coup de quatre syndromes assez courants chez le jeune journaliste, à savoir donc 1, la fatigue, le surmenage, la surcharge du travail. À s'ajoute tout ce que vous avez dit, donc le non-respect de la déconnexion, des horaires, etc. 2, la perte de sens, le sentiment d'inutilité. J'imagine que ça, quand j'entends parler du bâtonnage, j'en ai pas entendu parler dans ma partie, c'est vraiment nouveau pour moi, mais j'imagine que c'est une sacrée déception par rapport à ce qu'on apprend dans les écoles et quand on se rend compte de la réalité sur le terrain. Troisièmement, le troisième syndrome, un manque de confiance en l'avenir, de discernement pour le futur de sa profession. Et puis quatrièmement, même si c'est quand même moins ressorti dans ma partie, les discriminations au travail, le manque de représentation des minorités et le sexisme ambiant. Globalement, on mélange le tout et on obtient des journalistes fraîchement diplômés en proie non seulement aux doutes et donc à la désillusion, mais aussi tout bonnement à deux doigts du burn-out. Et encore, je ne parle pas de ceux qui se retrouvent à deux doigts du harcèlement tant le métier fait face à du mépris et à de la défiance, quelque chose que je n'avais pas suffisamment réalisé non plus. Mélangé aux réseaux sociaux, on obtient de la vulgarité, de l'acharnement et de la négativité constante, qui est très pesante selon les témoignages que j'ai pu lire. De ce que je tire de l'enquête de Jean-Marie Charron, face à la désillusion lors de l'entrée dans le monde du travail, les jeunes journalistes ont grosso modo deux options. La première, c'est la voie de l'indépendance. Donc ça vient, à contrario de ce que tu disais, FX, le CDI n'étant pas le Saint Graal, mais plutôt l'indépendance, et du coup d'aller vers ce qu'ils appellent la pige choisie. Donc c'est-à-dire retrouver sa liberté en travaillant à la pige. Donc je le rappelle, travailler à la pige, c'est donc être payé à l'article, à la photo ou au reportage. Et être plus en valeur à... plus en phase avec ses valeurs en choisissant ses commanditaires, d'où la pige choisie, qui va s'accompagner parfois, ça vous l'avez pas, où on n'a pas entendu parler avant, d'une formidable initiative de réinventer son métier, de recréer finalement un peu une rédaction, mais plus... plus en phase, à nouveau avec les valeurs de ces nouveaux journalistes, par le biais des collectifs. Donc les objectifs d'un collectif sont multiples et ils prennent plein de formes différentes. L'entraide et la mise en commun d'informations relatives au métier, la mise en commun de CDD aussi, le partage de locaux parfois, pas toujours, la création de projets communs. Il y a pas mal de collectifs de femmes aussi. Donc la piste choisie, pourtant, elle peut se retourner contre le journaliste et avoir son lot de déconvenues, je cite, « solitude ». Fatigue et bien sûr la précarité. Donc voilà, la boucle de merde est bouclée. La deuxième option ne serait autre que la reconversion. J'avais trouvé le livre, alors pas, je ne peux pas dire ça, mais ma partie assez générique jusqu'ici et je rejoignais un peu l'avis d'Enora parce que ces mots MAUX, fatigue, burn-out, précarité, désillusion, manque de sens, je les trouve adaptés à beaucoup de jeunes en fait fraîchement diplômés qui rentrent dans le monde du travail. Mais lorsque Jean-Marie Charon évoque la reconversion, il nous dit quelque chose d'intéressant, que moi j'ai trouvé intéressant. Il parle du fort décalage qu'il y a entre la détresse ressentie au travail et la sérénité face à la décision de reconversion une fois cette décision prise. La reconversion donc, l'abandon de ce métier tant aimé et tant fantasmé, est selon les témoignages beaucoup plus facile à envisager pour les plus jeunes générations que pour les anciennes. La décision est prise, je cite, « de manière plus détachée, avec moins d'émotions », la rattachant au devenir de leur génération. Si ce n'est pas un mal du siècle, je ne sais pas ce que c'est. Notre génération prend en main sa santé et ses besoins plus que la précédente, ça c'est indéniable. Et du coup, je me pose la question, ces jeunes qui désertent leur poste, s'accordent-ils plus le droit de douter ou ont-ils plus de raisons de douter de la profession de journalisme actuellement ? Est-ce que la profession est plus douteuse finalement ? C'est pas très bien dit, mais je me pose sincèrement la question.
Une bonne question.
Je vous la pose avidement à vous, FX et Roman. Et ma transition est toute trouvée pour annoncer la fin de l'arpentage et le début de notre partie de discussion.
Mais juste avant, on vous propose d'écouter un morceau d'un duo qui n'a jamais daigné se donner d'interview à un journaliste. J'ai nommé PNL et leur titre « Le monde ou rien ».
Je veux du N, je veux du V, je veux du G pour désaper ta raclée. Igo, on est voué à l'enfer, l'ascenseur est en panne au paradis. C'est bloqué à bombage, je fais big rap dans l'escalier. Président, dans le hall, j'ai vu Lian clivoter blanc. Onga, 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 ouais. Mon gars, je sers. Du taga, taga, AVR. En jaune ou en vert, nique sa mère. La famille a faim, pas le temps de raconter ma life, rêve de balivernes. Je veux pas de câlin, je suis qu'un glaçon sous string ficelle. Ah non mais oh, elle m'a pris pour qui pour Roméo. Non mais allô, non mais allô. Je laisse trace pour trans au WC, en LV totalement pété. Je rentre coke dans les poches, quand petit frère pas à l'école. Je suis dans ma bulle. Pull, oh shit, le shit, le shit, pull, censure le pull, 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 oh là là, dégage ton boule, 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 oh shit, ton mal, mon bien, ouais, 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 le pour les miens, ouais, 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 le monde ou rien. Ça me convient. Ouais, 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 ouais. Higo, je tourne en rond, les putains tournent en rond pour attraper ma queue. Pour attraper ma queue. Que du bon char fort, tout ce qui vaut pas un rond, comme l'honneur du barque. Comme l'honneur du barque. Et je suis la pomme pourrie qui se gore du panier. Je nique ma solitude tant que les poches sont bien accompagnées. Que la mif, les mêmes armes, le même salaire. On sauvera pas toute la terre. J'prends la couronne, la pose sur la tête du petit frère. Les larmes de la misère ont le goût de ma haine. À bout de souffle, ma haine me redonne de l'oxygène. Faut pas t'en faire, Tico, relève la tête, la misère m'emmène en balade.
parle de ton échelle au fond du trou, j'empile mes péchés, j'escalade.
C'était Le Monde ou Rien du groupe PNL. Vous êtes de retour dans l'émission Les Arpèdes sur Prune avec nos invités Roman et FX de l'association d'éducation aux médias Fragile. Nous parlons aujourd'hui donc de journalisme et de la désaffection actuelle de ce métier. Juste avant, on a fait l'arpentage du livre de Jean-Marie Charron, jeune journaliste, L'heure du doute. Et tout de suite, on continue avec la partie discussion avec nos invités.
C'est oui. Quoi, les élections régionales ? J'en ai rien à secouer, je suis anarchiste et je voudrais foutre en l'air toute la société capitaliste.
C'est bien dit. Avant notre interlude musicale, je me posais la question suivante. La désaffection apparemment flagrante du métier de journalisme s'explique-t-elle par une génération plus à l'écoute de ses besoins, un contexte plus favorable à la reconversion, ou parce que ce métier est en profonde mouvance et remis en cause? Et finalement, c'est quoi la source du doute, selon vous, FX et Roman? Est-ce qu'elle est dans la profession qui est plus douteuse qu'avant? Je répète ce mot bizarre, mais je ne sais pas comment le dire autrement. Ou elle est parce que cette génération, elle s'accorde plus le droit de douter?
Moi, je dirais et les deux, voilà. Non, mais oui,
ça dépend.
Moi, je dirais plutôt dans le sens où, comme les médias changent, la construction des articles ou des productions change, bah, du coup, ça découle sur les conditions de métier, de travail, qui, du coup, découle sur un désenchantement des personnes. Et voilà, pour ce qui est du métier. Après, dans l'autre sens, est-ce que les jeunes journalistes font plus attention? Peut-être, j'ai l'impression. Après, encore une fois, c'est vraiment ma vision. Mais je pense que oui, il y a un effet générationnel de prendre plus soin de soi et d'être plus exigeant, de plus trop se laisser marcher sur les pieds, de finir à 22h alors que j'ai commencé à 10h. Bah, peut-être qu'avant, les personnes, les autres générations le faisaient, mais là, ça passe plus parce que justement, il n'y a plus autant d'avantages, il n'y a plus autant de salaires, il n'y a plus de reconnaissance, il y a des trucs qui manquent, qui faisaient que peut-être avant ça tenait, mais maintenant ça tient de moins en moins. Voilà. Et aussi peut-être ce souci de se dire je suis pas esclave de mon travail, je suis pas au service de quelqu'un qui m'impose en plus des sujets, qui lui-même est milliardaire. Enfin, vous voyez, c'est tout un système. Je pense qu'il y a de plus en plus d'attention à ça, mais encore une fois, ça reste ma vision.
Pour le coup, il y a aussi l'idée du bouleversement du paysage médiatique sur l'arrivée du web et du coup des nouveaux médias et des réseaux sociaux qui ont quand même pas mal bousculé les modèles économiques des médias, ce qui explique en fait ce que Roman expliquait sur la perte d'argent. À la base, en fait, il y a des médias qui vivent à partir des abonnements et puis de la vente de publicité qu'ils arrivent à vendre. Et puis il y a Facebook, par exemple, qui arrive en disant « mais en fait, moi, je peux cibler spécifiquement les publics qui vont acheter vos produits ». Facebook peut dire ça aux annonceurs. Donc les annonceurs fuient les médias traditionnels, vont directement sur Facebook, les médias traditionnels perdent de l'argent. Donc forcément, il y a une sorte de crise autour du métier de journaliste qui se crée à partir du début des années 2000, qui est assez forte et qui arrive là avec quelques nouveaux... Enfin, des médias qui arrivent maintenant avec des modèles économiques qui fonctionnent sur les réseaux sociaux, mais qui ont totalement intégré ce que disait Roman, la perte des équipes, la perte des effectifs, où avant on partait à 3 pour faire un reportage, maintenant il n'y a plus qu'un seul journaliste qui part sur le terrain. Donc il y a pas mal de choses qui ont bougé là-dessus. Moi, je suis assez d'accord avec Roman sur oui, c'est à la fois la possibilité de regarder sa vie et peut-être aussi d'être un petit peu plus individualiste. Moi, je regarde cette idée de... C'est intéressant, le côté bienveillant, le côté prendre soin de soi. Dans le métier de journaliste, il y a quand même une idée de mission d'intérêt général aussi. Je prône pas l'idée de se sacrifier pour l'intérêt général. Cependant, ça me pose une question de savoir, tiens, est-ce qu'on a encore ce sens de l'intérêt général qui justifiait tous les sacrifices qui étaient faits par les générations précédentes ou en tout cas qui étaient affichés et je suis pas sûr, hein, mais je sais qu'on est aussi dans une société qui tend vers un petit peu plus d'individualisation. Et ça peut être un de ces effets de bord, en fait, avec un métier qui a une vraie utilité sociale et une vraie utilité de contre-pouvoir. Si on y croit moins, Si on dit qu'on peut abandonner ce métier pour faire autre chose, si on se met de côté, ça laisse de la place au pouvoir, tout simplement. Et donc, on affaiblit ce contre-pouvoir en se mettant de côté. Ça pose une question. Moi, je suis pas forcément à l'aise avec l'idée qu'il faut se sacrifier au travail. Et je suis le premier à ne pas me sacrifier au travail. Mais en tout cas, ça pose cette question-là. Quel futur pour le contre-pouvoir du journalisme, et puis du coup on peut le repolitiser en disant c'est une bonne manière que le capitalisme que les personnes qui ont des avantages à faire fuir les journalistes ont trouvé de précariser à fond la profession, de ruiner les conditions de travail pour pouvoir éloigner les profils d'investigateurs, les profils qui ont envie de faire du journalisme de cette profession. Et de garder que des précaires total qui feront moins d'enquête.
Ouais, ça faisait partie des questions que je me posais à la lecture. Au début, je me disais que c'était peut-être juste une analyse un peu bateau de grosse gauchiste de me dire la concentration des médias va vers du coup des médias principaux qui sont plutôt de centre ou de droite. Et dans le... Au début du livre, Jean-Marie Charon définit son échantillon par des journalistes plutôt de gauche. En fait, les jeunes journalistes ont l'air d'être plutôt de gauche parce que les sujets qui les intéressent ont l'air d'être plutôt la lutte environnementale, les qualités hommes-femmes, etc., etc. Et du coup, est-ce que cette concentration des médias qui va vers des médias plus de droite empêche aussi d'exercer ce métier en accord avec ses convictions personnelles et ses engagements personnels?
Oui, il y a l'idée que ça empêche parce que là, on peut regarder ça d'un œil totalement économique. En fait, si je veux m'informer, si je suis de gauche, si je veux m'informer sur l'environnement, sur un média de gauche aura potentiellement, éthiquement, idéologiquement, moins d'intérêt à se tourner vers des annonceurs et donc à accepter l'argent de la publicité, ce qui rend le média plus cher. Donc, ce qui veut dire que mon lectorat va avoir potentiellement plus de revenus. Je ne suis pas sûr que la partie gauche de la politique, en tout cas des électeurs, soit constituée majoritairement de gens qui ont beaucoup de revenus. Ça pose la question de comment on fait pour financer ce journalisme de gauche sans passer par la publicité, sans passer par des personnes qui ont vraiment les moyens de donner de l'argent à l'information. Ça coûte cher.
Oui, donc sans parler forcément de médias de gauche, de médias indépendants.
Il y a pas mal de choses qui peuvent se faire du côté du don, du prix libre, tout ça, mais c'est des modèles qui sont assez légers, en fait. C'est pour ça que les médias de gauche, en général, galèrent un peu plus que des médias de droite qui ont, là, idéologiquement, éthiquement, moins de problèmes avec le fait de se faire financer par n'importe qui et n'importe quoi aussi, quoi.
Après, honnêtement, encore une fois, j'ai un peu l'impression de paraître pour une experte, mais alors je rappelle que pas du tout. Mais c'est juste, moi pour le coup, j'ai vraiment un manque, et c'est là que je me rends compte, il y a peut-être ça qui manque, parce qu'effectivement, il n'y a que, entre guillemets, 100 personnes. Pour moi, ça reste un biais, parce que qui répond à des enquêtes de Jean-Marie Charon sur les... Voilà, et qui part au bout de jusqu'à 7 ans, clairement, c'est pas des... Enfin, dans ma tête, en tout cas, c'est pas des personnes... issue d'un microcosme parisien qui, du coup, va souvent trouver du boulot dans les grands médias traditionnels, enfin, dans ma vision. Et du coup, je ne pense pas que ça soit forcément lié... je me doute que les gens qui partent, en plus, ne s'y retrouvent pas peut-être au niveau des sujets qu'on leur propose, au niveau des médias, où potentiellement il y a du boulot. Mais j'ai quand même l'impression que dans les médias, dans les grands médias traditionnels, où il y a potentiellement plus d'argent, plus de postes, etc., ça convient aux jeunes journalistes, même les jeunes qui sortiraient d'école et qui sont d'une génération peut-être plus sensibilisée, etc. Mais pour moi, il y a quand même un système qui perdure, quoi. Les journalistes sont quand même en majorité des personnes blanches, aisées, issues de classes moyennes supérieures, plutôt parisiens ou en tout cas de grandes villes. Et du coup, je pense pas que ça soit un point très important, enfin le souci de pour qui j'écris et de tel sujet, je pense pas que ça soit le point central de pourquoi les personnes ne continuent pas, en fait, dans ce que j'ai compris de l'étude et dans ma vision globale. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, je vous sens perplexe.
Non, mais si, mais en fait, c'est pour ça que moi j'ai pas du tout aimé le livre, parce que déjà il y a ce gros biais-là, qu'il y a peu de personnes sur l'étude, et qu'en plus ce sont des personnes qui ont quitté le milieu du journalisme, donc forcément leur posture est pas...
Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que il y a quand même un truc à questionner, c'est des gens qui ont quitté le journalisme professionnel aussi. Et voilà, donc déjà ça prend le parti de considérer le journalisme uniquement comme une profession et pas forcément, comme ce que je disais tout à l'heure, comme une mission d'intérêt général. Là c'est uniquement sur le fait d'être payé pour créer de l'information. Là, je prends l'exemple justement sur Fragile, où nous, on a une rédaction de contributeurs-contributrices bénévoles qui n'ont donc pas d'intérêt financier à produire de l'information et qui peuvent le faire, qui peuvent aller sur des enquêtes, qui peuvent aller sur du culturel et des choses un peu plus inoffensives. Mais en tout cas, on a la capacité de le faire. Donc là, ce livre-là ne s'adresse que sur le côté professionnel du journalisme. Et forcément, après, le côté ça ne concerne que les mêmes personnes, oui, mais enfin c'est vrai que sur la capacité à faire de longues études, sur la capacité à on va sociologiquement toujours tomber sur les mêmes personnes, je pense que ça, on ne doit pas être très éloigné des médecins ou de n'importe quel chef d'entreprise de start-up ou d'une école de commerce, en fait. Enfin, oui. Voilà, c'est à peu près toujours les mêmes types de profils. Pour faire des études, il faut de l'argent. Où est l'argent? Il est souvent dans les milieux blancs privilégiés.
Et Jean-Marie Charon, dans ma partie, le répète, hein, il en parle, en tout cas, qu'on parle de la reconversion comme si c'était facile, parce qu'on parle quand même de personnes qui, bien que de milieux différents, ils ont tous un parcours d'études long et ils ont une facilité à envisager avoir plusieurs métiers au cours de leur vie. C'est des gens qui ont... c'est pas qui ont lu Salomé Sacquet, qui ont ces discours-là en tête aussi de
et qui ont un réseau, en fait, parce que c'est ce qui est dit dans le livre, c'est des gens qui aiment le journalisme. Pourquoi? Pour faire du contact. Mais en fait, le contact, c'est pas forcément que avec leurs sources. Alors ça peut être avec leurs sources, ça peut être avec leurs collègues. C'est quand même un métier qui est très lié au carnet d'adresses. Donc c'est plus facile de se reconvertir quand on a un carnet d'adresses fourni, qu'on a aussi été rencontrer des gens, quand on a eu la chance d'aller sur le terrain, évidemment, mais quand on a pu rencontrer des gens et se dire tiens, bah ça peut m'intéresser, ou j'ai interviewé quelqu'un qui a fait ça, et quand on est en fait aussi baigné dans un milieu informationnel qui va nous apporter ce type de témoignages venant d'autres médias. En fait, là on a eu des vagues après le Covid, des vagues de reconversion. Forcément, ou avec le phénomène Quit My Job aux États-Unis, enfin, ça a été aussi des phénomènes médiatiques. Les journalistes sont poreux à ça aussi, et donc forcément, on va avoir le même fonctionnement. Et là, ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, Enora, sur un truc générationnel qui se passe en ce moment, où les gens veulent du sens, arriver à la trentaine, en fait, et après avoir été dans un tunnel jusqu'à la sortie de leurs études, puis avoir essayé les métiers qui leur faisaient envie, pour lesquels ils se destinaient depuis tout petit, en fait, sont confrontés à la réalité, ils se disent, en fait, c'est pas forcément ça qui m'intéressait.
Moi, il y a quelque chose qui m'a interpellée quand tu parlais tout à l'heure, FX, quand tu faisais ta restitution d'arpentage, c'était sur l'actualité chaude, que les jeunes journalistes n'étaient plus très friands d'actu chaude. Et pourquoi, en fait? Est-ce que parce qu'il y a une surcharge d'actu chaude avec l'effet BFM, de l'information en continu qui nous arrive sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a une sorte d'analysis-paralysis qui se crée chez les jeunes journalistes qui ne savent plus comment traiter cette information qui arrive en masse constamment? Et ça me parle beaucoup, parce que c'est un peu comme ça que moi je me retrouve face aux réseaux sociaux en ce moment.
C'est l'idée. Alors là, on parle pas d'infobésité dans le livre, mais c'est cette idée là d'être surchargé, en fait, d'informations, et puis de liens avec la hiérarchie qui oblige, en fait, les journalistes à aller couvrir des sujets et à ramener quelque chose dans l'immédiateté. Donc ça crée un sentiment de pas pouvoir prendre de recul, pas pouvoir prendre de temps, pas pouvoir bien traiter le sujet, pas le comprendre. C'est dit un peu plus tard dans le livre, mais l'idée aussi de servir une vision éditoriale à laquelle on n'adhère pas forcément, mais on nous demande de ramener, enfin on demande aux journalistes de ramener un contenu. Et il faut le faire dans l'heure, dans la journée. Donc, on le fait. Et après, on s'aperçoit que ah oui, mais ce type de contenu, en fait, sert tel type de discours. Pas forcément sur une thématique de complotiste, de on nous manipule tout le temps, mais en fait, bah, on fait partie d'un média, on participe à quelque chose en lien avec notre ligne éditoriale, tout simplement.
Mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre le contenu que... Après, je ne sais pas, parce que finalement, je ne les côtoie pas, mais est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre le contenu qu'eux-mêmes vont consommer et le contenu qu'ils aimeraient pouvoir faire que du coup ils n'ont pas la possibilité de faire parce qu'on ne leur propose pas, il n'y a pas de commanditaire, il n'y a pas de...
Si.
Sans doute.
Ouais. Non, mais c'est intéressant ça quand même.
C'est ce qu'est dit, hein, c'est que y a vraiment, en fait, ils se prennent la réalité dans la tronche, ils ont envie de temps long et en fait, même là, moi, à la lecture, je trouve ça assez bizarre parce qu'il y a quand même cette idée de la longueur, c'est la qualité. Enfin, ma vision du journalisme, c'est quand même d'apporter une vulgarisation de l'information et donc une capacité de synthèse, donc à faire, à rendre court, compréhensible, des choses très longues. Et en fait, là, il y a une sorte de fantasme de un peu Tintin reporter, quoi. C'est-à-dire que même si dans Tintin, on le voit jamais écrire, d'ailleurs, on le voit jamais faire du journalisme. Mais
c'est vrai.
On le voit davantage être raciste.
Voilà. Non, mais il y a une confrontation entre ce que tu fantasmes du journalisme et ce à quoi il sert vraiment, en fait, tout simplement informer les gens et vite, parce qu'ils n'ont pas le temps de le faire.
Est-ce que la solution, elle ne serait pas dans la formation à la base, du coup ?
Si.
Moi, Nismeran, président ?
Non, c'est une des solutions, en fait. Oui. Là, la formation des journalistes, on en parlait tout à l'heure, mais elle est largement incomplète sur certains points, en fait. On peut le voir dans des codes documentaires, notamment en formation, ou ce qu'avait fait François Ruffin sur les petits soldats du journalisme, là, donc, qui s'articule autour du CFP. Du CFJ à Paris, qui est un centre de formation des journalistes, donc une école reconnue par la profession, où tout est articulé sur vraiment la forme du journalisme, c'est-à-dire comment faire un article, comment faire un article vite, comment parler à la télé, comment parler à la radio, mais pas du tout quoi dire, pas du tout vérifier une source. Là, c'est vraiment des choses de terrain, pas du tout se documenter sur un sujet. Non, il vaut mieux que tu dises cette phrase-là avant l'autre, parce que tu vois que ça a plus de peps, ça, on comprend mieux. Mais finalement, on ne sait pas ce que tu dis.
Ouais, c'est vraiment la forme avant le fond, et ça me rappelle aussi tous les formats maintenant web, où clairement, l'algorithme de Google joue un rôle énorme avec l'utilisation de certains mots-clés et pas d'autres, de taille de titre, etc. Donc on est vraiment plus sur la forme que sur le fond en général, quoi.
Pour en revenir peut-être plus à votre association, comment est-ce que vous, du coup, dans votre quotidien d'éducateurisme média, est-ce que vous formez ou en tout cas approchez les jeunes qui ont ce fantasme de métier de journaliste et tout en sachant cela, sans vouloir, j'imagine, briser leurs rêves complètement, leur couper l'herbe sous le pied, mais comment est-ce que vous avez cette approche des jeunes qui veulent être journalistes ?
Sachant que ça faisait partie des reconversions assez citées.
En fait, pour tout dire, la plupart des jeunes qu'on rencontre ne veulent pas être journalistes et ne veulent pas forcément participer aux projets auxquels on propose parce qu'on s'impose un peu dans leur classe. Mais souvent, ça se passe très bien.
C'est plutôt au magazine, du coup.
Ah, au magazine. Pardon. Je vais laisser plus FX, mais l'idée, c'est que la plupart, il y en a quand même quelques-uns, tu diras mieux que moi, mais qui veulent être journalistes, mais pas tous. La plupart, c'est aussi vraiment par plaisir, comme un loisir et la volonté d'informer de manière indépendante et accompagnée, mais je te laisse compléter peut-être pour les 2-3 personnes que ça concerne.
Et du coup, en fait, le magazine est un projet d'éducation aux médias au sein de Fragile qui est différent des ateliers d'éducation aux médias qu'on va faire, comme de ceux dont Romane parlait, dans collège, lycée, puis avec plein de publics différents. Mais il y a quelque chose de commun à tous ces projets, c'est la pratique. On pratique, on apprend ensemble, on se confronte, on se dit que si je dois faire un sujet sur une tentative d'étouffement d'affaires d'exhibition sexuelle à la fac, comme on a eu la semaine dernière sur Fragile, comment on fait, qui on doit contacter, comment on fait pour avoir une information sûre, comment on sait que telle personne a voulu empêcher telle personne a voulu étouffer une affaire, qu'on ne sache pas ce qui s'est passé, qu'on n'enquête pas. On va contacter telle personne, puis contacter telle personne dans cet ordre-là. On ne l'a jamais fait, mais on essaye, on voit, et puis après, bah, on fait de la relecture, on fait appel à notre esprit critique, à se dire, bah, tiens, est-ce que là, on est béton là-dessus ? Est-ce que ça peut tenir ? Est-ce qu'on est sûr de nous ? Et c'est vraiment cette idée-là de pratiquer le journalisme pour déjà être sûr que la pratique nous plaît. Et puis après, bah, pour les personnes qui veulent devenir journalistes professionnels, on va essayer de les faire pratiquer en conditions professionnelles, en produisant beaucoup. En fait, malheureusement, la première entrée dans le journalisme, là, avec le, on voit avec les pigistes, c'est de produire beaucoup, en fait. Parce que les enquêtes au temps long, souvent, on va commencer par perdre de l'argent avant d'en gagner. Si je fais une enquête sur 3 mois, bah, il faut que je finance, moi, mes 3 mois avant de toucher l'argent du média quand j'aurai vendu mon papier. Donc, on va d'abord faire des enquêtes très courtes ou des articles très courts pour être sûr que les personnes puissent tenir la marée, en fait, de cette pression, malheureusement, normale dans le monde du journalisme professionnel.
Merci beaucoup pour cette discussion, on aimerait beaucoup aller plus loin et pour ça d'ailleurs on va se partager des références culturelles sur le sujet. On va d'abord écouter une petite reprise de Désenchantée de Mylène Farmer par la chanteuse belge Angèle et on se retrouve après pour la partie librairie du coup.
Nager dans les eaux troubles des lendemains, attendre ici la fin, flotter dans l'air trop lourd du presque rien, à qui tendre. Te sois lente, je n'ai trouvé de repos que dans l'indifférence. Pourtant, je voudrais retrouver l'innocence, mais rien n'a de sens et rien. Tout est chaos à côté, tous mes idéaux, des mots abîmés. Je cherche une âme qui pourra m'aider. Je suis une jeune. Chaos à côté. Je cherche une âme qui pourra m'aider. Je suis d'une génération désenchantée,
Vous venez d'entendre la reprise de Désenchantée de Mylène Farmer par ma chanteuse préférée, Angèle. Et vous voilà de retour dans l'émission Les Arpèges, où l'on parle des jeunes journalistes et leur entrée difficile dans le métier. Comme d'habitude, nous aimons partager des références culturelles en fin d'émission, histoire d'avoir de la matière si on souhaite aller plus loin.
Oui, les livres,
à la bibliothèque,
et la musique danse,
à la discothèque,
et les discothèques,
c'est bébé.
Chers invités, avez-vous des références à nous partager, qu'elles soient littéraires, audiovisuelles?
Ouais. FX a quand même cité, mais faudra réécouter l'épisode du coup si vous n'avez pas suivi, deux documentaires, notamment En Formation, donc, qui reprennent, qui ont investigué dans les écoles carrément, qui sont très intéressantes. Le livre de François Ruffin, Les petits soldats du journalisme. Et je rajoute, t'as vu, j'allonge ma... Ah pardon, c'était... Pardon, excuse-moi FX. Je rajoute à cette liste Défaire le discours sexiste dans les médias de Rose Lamy, aka Préparez-vous pour la bagarre sur Instagram, qui fait un formidable travail sur Instagram et aussi dans son bouquin, du coup, de lister en fait tout ce qui va pas au niveau du traitement, souvent sexiste, dans les médias. Voilà, je rajoute ça, c'est très intéressant, ça se lit très bien et très beau travail.
Eh bien, merci Romane de m'avoir piqué mes références. Non, pas du tout. C'est les références de tout le monde. Moi, du côté de la critique du journalisme, je citerai Bâtonnet, qu'on a donc Bâtonnet, comment l'argent détruit le journalisme, de Sophie Eustache, qui est un tout petit livre qui explique en fait l'intérieur de la vie des rédactions qui font du desk, justement, qui paraphrase des dépêches AFP à longueur de journée, pour bien comprendre ce que c'est que d'être journaliste en 2020. Le livre de Rachid Lairech, qui s'appelle Il n'y a que moi que ça choque, qui est Rachid Lairech est un journaliste politique qui avait travaillé à Libération et qui en fait explique un petit peu son désenchantement vis-à-vis du monde politique et du journalisme politique, justement sur cet entre-soi entre journalistes et sur les liens entretenus avec les personnalités politiques pour avoir de l'information. Et puis du côté, là on a parlé des choses qui font pas rêver, mais du côté du rêve autour du métier de journaliste et de la mission de journaliste, je citerai le podcast Mécanique du journalisme, qui est un podcast de France Culture qui revient sur pas mal d'enquêtes qui ont fait du bruit ces dernières années. Par exemple, l'enquête sur Fillon ou sur Lance Armstrong, et où les principaux protagonistes, les principaux journalistes sont interviewés pour expliquer leur méthode, comment ils ont fait pour sortir ces histoires. Et c'est passionnant, c'est très bien monté, donc c'est un très bon podcast.
Je peux rajouter le site Arrêt sur Image, bon, qui est sur abonnement, mais c'est un peu un classique et vraiment c'est super bien. Donc c'est des journalistes qui font des articles sur le travail du journaliste, sur la critique média en fait, qui critique les productions journalistiques en France. Voilà.
Et puisque c'est un combat de référence, moi je rajoute Acrimed. Acrimed, un site aussi de critique média et une association qui fait beaucoup pour la critique des médias.
Bah moi je rajoute, non rien.
Moi je voulais rajouter Le génie lesbien d'Alice Coffin, pour faire honneur aussi à Lilia, qui est co-animatrice des Arpèges mais qui n'est pas là cette année. C'est le livre qui moi m'a fait découvrir les dessous du métier de journaliste que je ne connaissais pas avant, par l'expérience de l'autrice qui est une femme journaliste lesbienne dans une profession qui se voudrait neutre, sauf que le neutre, ben, c'est le masculin, et ce toujours en 2024.
Merci beaucoup. Et puis bien sûr, on vous conseille votre émission Retour aux sources sur Prune, où vous allez retrouver Romane, FX et d'autres de leurs collègues.
Effectivement.
Ouais, faut écouter. Et bisous à l'équipe.
C'est la fin de l'émission Les Arpèges. Merci de nous avoir écoutés. Merci à nos deux invités, Romane et François-Xavier de l'association Fragile à Nantes, mais aussi du podcast Retour aux sources, on vient de le dire. Merci à Léo, fidèle au poste, à la technique.
Le podcast de l'émission, toutes les références citées sont à retrouver sur la page de l'émission sur prune.net. Et on se retrouve le samedi 6 avril. On vous souhaite de passer un beau mois de mars. À bientôt sur Les Arpèges. Bye bye.
Bye bye.
Bye bye.
Ciao ciao.
Bye.